Eh bien, c'est le projet de l'application Smatchy en cours de développement et qui met en lien des sportifs par un système de match et de géolocalisation. Une idée venue de Maude Baudier, une triathlète et jeune entrepreneuse, déjà à la tête du projet Les Bornés qui défend la mixité dans le sport. Pour elle, l'application doit permettre aux utilisateurs d'allier à la fois le plaisir du sport, le dépassement de soi et puis surtout la sécurité. On lui a posé quelques questions. Alors Maude, tu avais déjà un projet initial avant de développer l'application Smatchy et donc elle s'adresse à qui cette application?
En effet, on a en fait une communauté qu'on anime depuis 4 ans autour du cyclisme et du triathlon qui a remonté en fait plusieurs besoins et entre autres le besoin de se rassembler, c'est-à-dire que ce qui faisait que toutes les personnes venaient au sein de notre communauté, c'était cette envie de ne pas faire du sport seul. Et ça nous a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il y avait un besoin d'en adresser sur le marché, qui était en fait le fait de trouver une personne avec qui faire du sport dès lors qu'on est chez soi, en vacances, en déplacement, et quel que soit le sport. Et donc Smatchy est né de cette volonté, c'est de créer une application qui a pour but de mettre en relation des sportifs avec un système de géolocalisation et un système de match en fonction de nos attentes et de nos envies et de notre niveau sportif. Actuellement, Smatchy n'est pas encore développé en phase vraiment applicative. On a en fait la version bêta sur notre ancienne communauté sportive sur la partie cyclisme et triathlon qu'on teste. On teste plusieurs choses, plusieurs algorithmes. C'est un peu notre bêta. Et l'objectif, c'est de le lancer très rapidement sur l'ensemble du territoire européen courant de l'année 2023. La communauté telle qu'elle existe initialement, elle est partout en France et en Suisse.
Alors, comment elle va fonctionner, cette application? Est-ce qu'elle va fonctionner un peu comme un site de rencontre, à la manière d'un Tinder ou d'un Bumble, on doit swiper à gauche ou à droite, ou bien est-ce qu'il y aura un système de petites annonces où chacun mettra un petit peu son parcours, sa volonté de faire du sport et puis on y répondra un peu comme on voudra?
Et ben c'est à l'intermédiaire entre les deux. En fait, il y aura à la fois des fonctionnalités qui peuvent faire penser à ces applications de rencontre. En fait, on va chercher une personne en particulier avec qui faire du sport, qui peut être tout à fait orientée sur la performance, par exemple. Je prépare une course et j'ai envie d'avoir une personne qui a les mêmes envies, le même niveau que moi. Tout comme ça peut être lié à une passion, à un centre d'intérêt ou quelque chose qui pourrait rapprocher ces deux personnes alors que naturellement elles ne se seraient pas forcément adressées la parole d'un point de vue sportif. La plateforme en fait sera faite en deux temps. Il y aura cette partie match et cette partie organisation événementielle. Ce qui fait qu'en fait la partie organisation événementielle fait un peu plus penser à des plateformes de petites annonces où moi j'aurais été matchée avec un certain nombre de personnes et à l'issue de ces matchs je pourrais créer des listes en fait d'amis sportifs et diffuser mes sorties sportives soit au grand public, à tout le monde, soit à ces listes d'amis restreintes. Et là après les personnes pourront dire moi je suis dispo ce soir pour le footing avec toi et s'inscrire en fait directement sur la plateforme pour dire je suis disponible. Ce qui permettra aussi de fluidifier la coordination parce que moi j'aurais juste à aller sur un espace sans avoir à échanger des numéros de téléphone et des SMS etc. pour savoir qui est disponible pour ma séance et donc se retrouver à un instant T, à un point donné et partir faire la séance ensemble.
À la base, la volonté de création de cette application elle est plutôt sociale, on va dire pour faire des rencontres, mais elle a aussi un aspect un peu sécuritaire, c'est-à-dire que notamment quand on est une femme, parfois on se pose la question de est-ce qu'on va aller courir dans un endroit un peu sombre, un peu isolé. Là au moins la question se pose plus trop puisqu'on est capable de trouver des gens qui vont nous accompagner sur une course ou sur une promenade à vélo ou un autre espace sportif.
Tout à fait, en fait c'est même sécuritaire, non pas uniquement pour les femmes mais pour tout le monde. Là on cite l'exemple des femmes, il est assez évident, mais ça peut être sécuritaire pour des personnes un peu plus âgées qui veulent pas faire du sport seules parce qu'elles ont peur qu'il leur arrive un petit pépin de santé potentiellement et que ça les rassure de se dire qu'elles font du sport avec quelqu'un qui pourrait potentiellement prévenir des équipes paramédicales au besoin. Ça peut être sécuritaire dans le sens où je vais dans une nouvelle région, je ne connais pas les routes, je pense par exemple à tous les sports d'extérieur et donc j'ai pas envie de me retrouver dans une zone qui va un peu craindre ou j'ai pas envie de me retrouver dans une zone où il y a beaucoup d'accidents avec les voitures parce que je suis à vélo et je sais que les utilisateurs sur cette route-là, ils roulent pas bien et donc je vais bénéficier de l'expertise de locaux par exemple qui vont me dire passe par cette route, c'est hyper dangereux, passe plutôt par la route d'à côté qui est vachement plus calme avec moins de trafic, etc. Et en fait, cette notion de sécurité, elle est évidente pour les femmes, mais en fait, elle existe également pour tout type de profil qui voudrait éviter de mettre sa santé en jeu, quelle que soit la notion de santé, et qui vont avoir besoin en fait de ce lien social dès lors qu'ils se retrouvent en plus de ça en dehors de leur route ou dès lors qu'ils commencent un nouveau sport ou qu'ils font quelque chose en fait qui va changer de leurs habitudes.
Il y a aussi un côté un peu motivation parce que c'est vrai qu'après une journée de travail, on arrive parfois chez soi un peu fatigué. Là, au moins, on a quelqu'un qui va peut-être nous pousser à sortir, à aller courir, à aller faire du sport. Et ça, ça peut être que bénéf.
Bah oui, en fait, il y a un effet, on va dire, positif au fait de devoir rencontrer quelqu'un et de devoir retrouver une personne. C'est que ça nous force à devoir se bouger et aller forcément rencontrer cette personne et éviter, en fait, le côté, bon, bah, je suis arrivée chez moi, je me suis assise dans mon canapé. Et en fait, bah, non, un peu flemme de sortir. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, c'est que ça permet aussi à beaucoup de personnes, parfois, juste d'aller se dépasser un tout petit peu. Alors, on parle pas forcément tout le temps de performance, mais la notion de se dépasser, c'est, ça va être, tu es en train de papoter avec quelqu'un, et si t'avais été seule, tu n'aurais peut-être fait que 5 km de footing, mais parce que t'es avec cette personne, tu vas faire 6 ou 7, parce que le moment est bon, c'est un moment agréable, et donc tu vas continuer, en fait, l'expérience, et tu vas faire quelque chose que t'aurais peut-être pas fait si t'étais seule. Et donc, ça permet à la fois d'éviter d'abandonner, d'éviter, en fait, finalement, le côté flemme, mais en même temps aussi, ça permet de se dépasser.
Comment ça va se passer, l'inscription sur Smatchy? J'imagine que ça va être gratuit pour pouvoir accéder à l'application et rencontrer des gens. Mais après, tu m'expliquais qu'il y avait aussi une version premium qui allait être lancée, notamment pour faire des rencontres un peu plus intimes, on va dire.
On va construire l'application de telle sorte à ce qu'une grande partie des fonctionnalités soient gratuites pour les utilisateurs, et certaines fonctionnalités spécifiques nécessiteront la prise d'un abonnement qui pourra être mensuel, annuel, selon la volonté de tout à chacun et selon les tarifications. Et entre autres, une des fonctionnalités qu'on mettra en payante, c'est la fonctionnalité Love, qui est une fonctionnalité qui nous a été demandée par les utilisateurs, qu'on trouve assez intéressante parce que, en effet, il existe un univers du dating un peu, on va dire, caché dans le monde du sport, puisque finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur un lieu sportif, mais pas assumé. Or, il y a beaucoup de personnes qui, dans l'univers sportif, aimeraient pouvoir rencontrer des personnes qui partagent le même sport, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, parce que, et je vais par exemple donner l'illustration du cyclisme ou du triathlon, qui sont des sports qui nécessitent beaucoup d'heures d'entraînement et donc un investissement assez fort. Dès lors que vous passez beaucoup de temps finalement en extérieur de votre domicile, il est quand même beaucoup plus agréable de construire une relation avec une personne qui va partager ces sports-là avec vous et donc qui va être dans la même construction que vous, qu'une personne qui ne comprend pas votre pratique, et en conséquence ça va créer des dissonances. Le deuxième plan qui était intéressant par exemple avec la fonctionnalité Love, c'est qu'il est extrêmement pressurisant de se retrouver face à un total inconnu ou une totale inconnue dans un resto ou dans un bar, alors que là en fait c'est un moment sportif, c'est finalement quelque chose qu'on aurait fait quoi qu'il se passe, on aurait fait cette séance-là, c'est juste qu'on propose de la partager avec une personne qui peut-être pourrait nous plaire. Et donc ça retire un peu aussi toutes les barrières et tout le côté un peu pressurisant d'un date, parce que au final vous allez juste faire votre séance de sport avec quelqu'un qui, avec qui vous pourriez peut-être construire quelque chose, et on verra ce que l'avenir vous réserve. Et c'est toutes ces petites fonctionnalités qu'on va réfléchir qui auront ce petit truc en plus et qui là elles seront payantes.
Ok, c'est quoi alors le futur de Smatchy? Comment ça va se passer dans les prochains jours?
L'objectif c'est que la version 1, la version bêta de notre application sorte courant du deuxième trimestre 2023. Elle sera testée d'ailleurs en exclusivité par notre ancienne communauté et par nos actionnaires, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui vont investir dans notre levée de fonds pourront tester l'application. Et volontairement, en fait, on a rendu la levée de fonds extrêmement accessible puisque tout le monde peut devenir actionnaire dès 11,15€. Donc c'est vraiment pas un gros montant. On a tendance à dire, voilà, aujourd'hui tu mangeras pas un fast-food, tu vas investir dans une start-up. C'est un petit peu l'image qu'on donne. Et une fois l'application lancée sur cette communauté qui va finalement la tester, on ouvrira en fait les frontières et on ouvrira le périmètre pour pouvoir aller chercher plus d'utilisateurs plus loin et sur plus de sports. Et évidemment, l'objectif, ça va être de créer des événements, des happenings qui seront faits conjointement, potentiellement avec des clubs, des groupements, des marques, et qui permettront en fait de mettre en avant certains sports, mettre en avant certaines pratiques et peut-être potentiellement aussi certains utilisateurs, parce que il arrive plein de fois que j'entende « Oh non, c'est pas un sport fait pour moi, je suis » et quelque chose de très négatif qui va suivre ce « je suis ». Et on se rend compte que à travers les événements, à travers la rencontre avec des athlètes ou à travers beaucoup de choses, on peut casser certains codes et certaines barrières. Et donc tout l'objectif sera aussi d'utiliser Smatchy dans l'objectif de recréer ce lien local entre les personnes, entre le pro et l'amateur, entre le haut niveau et le débutant. Et tout l'objectif, ça va être de nous utiliser, d'utiliser le digital pour recréer ce lien local.
Merci Maud d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on souhaite bonne chance à l'application Smatchy afin que de nombreux sportifs puissent se rencontrer grâce à l'application.
Bienvenue au cœur de la nuit. On passe d'un sujet intéressant à un autre. C'est ça, la nuit sur 8FM.
On a tous dans nos placards des vêtements qu'on ne porte plus et dont on ne sait pas vraiment quoi en faire. Plutôt que de les jeter à la poubelle, la plateforme redonner.fr travaille avec des marques partenaires et vous propose d'échanger vos vieux vêtements contre des nouveaux. Valentine Sylvain est la cofondatrice de la plateforme.
Alors, redonner, alors nous, à la base, on est une solution digitale qui aide les marques à collecter et recycler les textiles usagés de leurs clients. Voilà. Donc nous, on essaye justement de le but vraiment, hein, et l'objectif de cette solution est de redonner. C'est vraiment de redonner aux gens le réflexe de donner plutôt que de jeter. Aujourd'hui, on a plus de 500 000 tonnes de vêtements qui finissent à la poubelle chaque année en France, ce qui est catastrophique. Donc c'est vraiment cette problématique-là qu'on essaye d'adresser. Donc on le fait, nous, en tant que redonnés, mais surtout on le fait aussi en partenariat et aux côtés de nos marques partenaires qui veulent bien, du coup, rentrer dans ce mouvement et dans l'aventure pour nous aider à réinstaurer ce réflexe. Et puis aussi à sensibiliser les gens sur cette problématique-là et puis les informer davantage sur où est-ce qu'on en est et quels sont les bons gestes à adopter.
D'accord. Donc, ce que j'ai vu sur le site, en fait, donc par exemple, moi, j'ai un vêtement, il faut qu'il soit en bon état quand même si je dois le donner.
Non, justement, on essaie d'expliquer que aujourd'hui, au travers de la filière du tri du recyclage en France, qui est une filière réglementée, on collecte absolument tout. Donc aujourd'hui, on collecte tout ce qui est vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie, quelle que soit la marque et quel que soit l'état. Et je donne toujours cet exemple de la chaussette, parce qu'on a tous chez soi cette chaussette qui ressort seule de la machine à laver ou alors de la chaussette trouée. Ça, c'est typiquement le genre de chose qui finit à la poubelle. Et justement, on essaie d'expliquer qu'il ne faut pas jeter. C'est au même titre qu'en fait, on va mettre une bouteille de plastique dans la poubelle jaune. La chaussette, elle a rien à faire dans la poubelle jaune ou dans la poubelle des autres déchets. Elle doit justement faire partie de tous ces vêtements, avec des vêtements qui seront en bon état ou en moyen état. Mais il faut que tout ça soit donné pour que ça intègre cette filière du tri et du recyclage pour ensuite être revalorisé.
D'accord. Et du coup, je voyais que donc on donne et en plus on peut avoir des bons d'achat, c'est ça?
Voilà, exactement. Parce que aujourd'hui, les gens n'ont pas le réflexe de donner. Alors pour différentes raisons, soit parce que y en a qui ont la flemme, parce que c'est vrai que faire le tri dans son placard et puis se poser de bon, est-ce que ça, je le garde pas, ça prend du temps. Et puis il y a les gens aussi qui savent pas que la chaussette trouée en fait, effectivement, ce n'est pas dans la poubelle. Donc effectivement, pour réinstaurer, pour encourager les gens encore plus vraiment à le faire, c'était aussi important pour nous d'encourager les gens en essayant de créer un cercle vertueux et en disant vous faites un geste pour la planète et nous et avec nos marques partenaires on fait un geste pour vous. Voilà, pour vous encourager et vous pousser vraiment à faire ce geste et à le faire régulièrement. Donc c'est vrai qu'on a ce mécanisme de récompense du coup au travers de nos marques partenaires qui justement soutiennent un peu justement ce réflexe et ce mouvement en faisant tout simplement plaisir pour dire vous avez fait une bonne action et nous on a envie de valoriser ça et de vous encourager à le faire de façon récurrente.
Et alors moi, par exemple, j'y pense, j'ai 3 ou 4 gros sacs de vêtements d'enfants chez moi, mais je les pose où si je veux les donner en fait?
Alors justement, depuis le site de toutes nos marques partenaires ou depuis le site redonner.fr, vous allez du coup vous connecter et vous allez rentrer l'adresse de votre domicile et là, tous les points de collecte qui sont à proximité de chez vous vont s'afficher. Il faut savoir que des points de collecte, il y en a plus de 40 000 en France. Donc, quel que soit l'endroit où vous habitez, que ce soit dans une grande ville ou en province, il y a forcément un point de collecte qui est près de chez vous. Sauf que c'est vrai que c'est un peu comme la poubelle de verre. On passe un peu son temps à la chercher, on ne sait jamais vraiment où elles sont. Et donc, en fait, on tombe dessus par hasard. Et puis, comme on ne les cherche pas vraiment, en fait, on ne les voit jamais. En plus, elles sont ouvertes, elles se font assez bien dans le décor. Donc voilà. Mais la réalité, c'est qu'il y en a partout de ces points de collecte. Donc, nous, justement, c'est ce qu'on essaye de mettre en lumière au travers de redonner cette filière et tous ces points de collecte qui existent. Et du coup, on redirige les gens vers les points de collecte qui sont en fait concrètement en bas de chez eux. Donc, au travers dans le parcours client, quand vous allez faire la démarche avec redonner, vous allez du coup sélectionner un point de collecte, celui que du coup vous préférez et qui est le plus pratique, le plus proche, de chez vous, tout simplement.
Merci beaucoup Valentine Sylvain. Redonner.fr travaille avec près de 40 marques partenaires, autant dans le prêt-à-porter que les chaussures ou le linge de maison. Concrètement, de donner vos vieux vêtements vous offre des réductions sur ces marques jusqu'à moins 20%.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone, so I hold them in my hands. Pictures of you, dream of the day you were 8 and 2.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Pour tous les propriétaires d'animaux de compagnie, voici un bon plan pour vous, pour faire garder votre chien, chat ou même un lapin, tout animal de compagnie en fait en somme. On a interviewé Salim Bouleich, le fondateur de Pabette.com. Ça s'écrit P-A-B-E-T-E.
Alors, Pabette est une plateforme solidaire de garde d'animaux entre particuliers. On existe en France et en Belgique depuis le début de cette année. L'objectif de Pabette est de faciliter la vie des animaux, des amoureux des animaux, en démocratisant en fait les services de garde. Notre objectif aussi est de participer à la réduction en fait des abandons. Ce qu'on appelle les abandons non désirés. Et ça, on l'a vu effectivement via cette crise sanitaire, en fait, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se font hospitaliser ou qui n'ont pas vraiment le temps à s'occuper de leurs animaux, donc on est derrière justement pour s'en occuper, pour les garder ou pour sortir les chiens, par exemple.
Bah oui, j'imagine. Et du coup, comment ça se passe concrètement? Parce que de ce que j'ai compris, c'est presque pas payant en fait la garde, mais comment on fait pour pas payer et quand même faire garder son animal?
Alors, Pabette, elle fonctionne vraiment avec un système innovant, on va dire, et sécurisé. Ça fonctionne avec un système de monnaie interne qu'on appelle les bébêtes. Donc une bébête, elle coûte 2 euros uniquement. Elle permet de financer une journée de garde pour un animal. Donc comment l'obtenir? Soit en l'achetant via la plateforme, soit en rendant service aux autres adhérents en gardant leurs animaux.
Donc en fait, en gros, c'est de l'échange de garde. C'est-à-dire que si je garde ton animal, après moi, gratuitement, tu gardes le mien, c'est ça à peu près?
Exactement. Par exemple, si vous avez un animal, vous voulez le faire garder pour 2 jours par exemple, cela vous coûtera 2 bébêtes, c'est-à-dire 4 euros. Et donc moi, si je garde votre animal pendant les 2 jours, à la fin de la prestation, ben, je vais récupérer vos 2 bébêtes que je peux réutiliser pour mon propre animal et le faire garder par exemple 2 jours gratuitement.
Dans tous les cas, c'est pas très très cher en fait, parce que 4 euros, je me rends pas compte, la garde d'animaux en soi c'est cher sinon quand on passe par d'autres plateformes?
Ben, sincèrement, en fonction des régions, normalement si on passe par un professionnel ou une pension, le prix moyen pour la garde d'un chien c'est environ 15 euros on va dire, entre 15 et 20 euros.
Donc c'est vrai. La qu'on, journée
on débite, oui, tout à fait.
Oh la vache, ah oui. Ah oui, et du coup, ça réduit beaucoup. Et comment vous les choisissez les personnes? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un espèce de contrôle, c'est pas parce que pour éviter qu'il y ait un souci au niveau des animaux ou pas du tout, je sais pas.
Oui, tout à fait. En fait, les bébêtes, c'est vraiment l'élément phare de la plateforme, parce qu'effectivement, ça permet de financer les prestations de garde. Et ça permet aussi de donner un cadre à la plateforme, parce que cela permet de tracer en fait tous les échanges entre nos adhérents, ce qui permet en fait de ressortir en fait les échanges douteux, s'il y a des personnes qui veulent négocier de l'argent, etc. Donc ça permet vraiment de donner un cadre et une sécurité des échanges. Et de deux, nous on demande en fait lors de l'inscription que nos adhérents puissent nous communiquer des pièces justificatives pour qu'on puisse valider leur identité. Et justement, ça va nous permettre de savoir à qui on confie nos animaux. Donc ça permet vraiment de poser les bases de la confiance.
Oui, et oui, bah oui, parce que bon, quand même, nos bébêtes en général, on y tient. Et du coup, depuis le début de l'année, donc vous me dites, il y a combien de personnes qui participent à la plateforme là actuellement sur Pabette?
Alors, aujourd'hui, on est un peu plus de 7000 personnes, et c'est pour ça, en fait, que j'ai dit que par rapport à la validation de l'identité, c'est vraiment un double tranchant, parce qu'aujourd'hui, ça nous pénalise, on va dire, en termes de chiffres, parce que les gens, ça les freine, etc. Mais c'est aussi notre objectif. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une communauté qui fonctionne, des personnes de confiance, parce que moi aussi, je suis utilisateur de la plateforme. Et donc, si je veux confier mon animal, bah, je veux vraiment le confier à une personne de confiance. Donc aujourd'hui, on est un peu pénalisé, on est quasiment 7000. Mais voilà, c'est vraiment 7000 personnes qui sont prêtes à jouer le jeu. Ce sont 7000 personnes de confiance. Et c'est vrai que l'objectif aussi, c'est de faire grandir la communauté. Et je le vois, par exemple, aujourd'hui, ça nous freine de temps à autre, bah, parce qu'on reste des êtres humains avec nos occupations et nos obligations aussi. Et parfois, on n'est pas forcément disponible pour rendre service, bah, justement, d'où l'intérêt de faire grandir la communauté. Et si vos auditeurs et auditrices nous écoutent, s'ils peuvent aussi nous rejoindre, si... Bien sûr, ils sont sensibles à cette philosophie et à cet esprit d'entraide pour leurs animaux. Bah, bien sûr, ils sont les bienvenus.
Merci beaucoup Salim Boulaïch. Je vous rappelle le nom de la plateforme pabette.com.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
En matière d'inclusion, de nombreuses initiatives existent. Là, tout de suite, on va vous parler de Lattice, développé par Jean-Michel Prat pour les personnes malentendantes. C'est un moteur de transcription, mais pas que. Il nous en dit un peu plus.
Alors, Lattice, L-A-T-I-S,
oui.
C'est le moteur de transcription.
D'accord.
Et on a mis d'autres outils avec d'autres noms, qui est par exemple Lexio, qui est... le même principe qu'un IGFone, c'est-à-dire qu'on parle des deux côtés et apparaît ce qui était dit de chacun des deux côtés. En gros, imaginez un guichet de la SNCF, l'agent parle et ce que dit l'agent apparaît sur l'écran de l'usager. L'usager parle et ça apparaît sur l'écran de l'agent. Donc là, dit comme ça, il y a peu ou pas d'intérêt. Mais si l'usager parle allemand et que l'agent ne parle pas allemand, l'agent parle français, ça apparaît en allemand au niveau de l'usager. L'usager parle allemand, ça apparaît en français au niveau de l'agent.
Oui, je vois. Mais l'application, vous l'avez fait principalement pour les personnes malentendantes ou vous l'avez fait...
Oui. Alors, à l'origine, c'est véritablement pour les personnes malentendantes.
D'accord.
Donc j'ai rajouté cette option de traduction, mais je l'ai ce même boîtier, on peut le brancher sur un téléphone filaire pour qu'une personne sourde ou malentendante, alors plutôt devenue sourde ou malentendante, puisse lire ce que dit son interlocuteur par téléphone et puisse lui répondre.
D'accord. En fait, on branche un téléphone.
On branche le téléphone sur ce boîtier.
Ouais.
Et ça fait la transcription. Ça fait la transcription de ce que dit le correspondant. Typiquement, vous seriez de la presse écrite. Tout ce que je vous dis pourrait être transcrit sur un écran. Et ensuite, vous récupérez l'information écrite.
Et par contre, ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la personne, elle écrit, ça transmet pas une voix.
Non. Ouais. Ça, c'est la version plus tard.
Ah, vous y pensez, du coup?
Oui. Parce que ça permet, typiquement, on a eu, alors je sais pas si vous êtes aperçu, il y a eu un grand moment de vaccination nationale. C'est peu indiqué dans les journaux, mais ça s'est fait. Et dans certaines villes où on m'a dit oui, l'outil aurait été bien pour la vaccination, mais malheureusement, la population qu'on vaccinait ne savait pas forcément lire, même pas sa langue maternelle. Et donc d'avoir le même outil, mais qu'au lieu que ce soit écrit, ce soit dit, c'est-à-dire qu'on fasse de la traduction orale, c'est-à-dire que je parle en français et ça parle en allemand, ça parle en italien. On a mis comme langue, on va dire les langues européennes, français, anglais, suédois, néerlandais, allemand, italien, espagnol, portugais et extra-européen, arabe et turc.
D'accord. Et alors, du coup, cette application, elle est payante, elle est gratuite, expliquez-moi.
Alors, l'application est gratuite, l'utilisation est payante. C'est-à-dire que on n'a pas de licence à payer, mais par contre, on paye à l'heure d'utilisation.
Ok.
Je prends un peu le même principe qu'une carte prépaiement de téléphone à l'époque. Alors, je fais partie d'une ancienne génération qui avait des cartes pour payer le téléphone dans les cabines téléphoniques. On achète des unités et on les utilise au fil de l'eau.
D'accord.
Et le décompte se fait à la seconde. C'est-à-dire que si je prends une heure, j'ai réellement 3600 secondes d'utilisation.
Oui, on peut les découper. Et oui, je vois ce que vous voulez dire. Ok. Et en fait, cette application, on peut la télécharger sur Play Store ou iPhone, c'est ça?
Non. Pour l'instant, non. Elle n'est que sur Windows.
Ah, c'est sur Windows. C'est sur l'ordinateur, en fait. D'accord.
Sur l'ordinateur, pardon. Oui, sur un ordinateur et sur des petits boîtiers.
Des petits boîtiers
connectés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la version Apple et Android.
Oui.
Car ce genre d'éléments pour des malentendants existe déjà. Vous prenez un Google Traduction et ainsi de suite. Ils ont déjà ce genre d'éléments. Aujourd'hui, moi, l'outil a été développé pour justement suppléer ces besoins sur de la fonction publique, sur des accueils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez Google Traduction, je vous dis Google comme j'aurais dit autre chose, hein, j'ai pas d'action chez Google, malheureusement. Aujourd'hui, un utilisateur, quand vous allez, alors je peux imaginer que vous ne parlez pas vietnamien. Je peux imaginer que vous ne parlez pas vietnamien. Quand vous allez au Vietnam, vous pouvez avoir votre Google Translate. Vous parlez en français, ça traduit en vietnamien. Il parle en vietnamien, ça traduit en français. Donc ça, à titre individuel, existe.
D'accord.
Mais pour l'accueil de public, c'est-à-dire que un musée, une mairie, une société, quand ils reçoivent du la personne sourde ou malentendant, ça permet d'avoir de la traduction, de la transcription. Et si on accueille un étranger, donc qui parle pas français, ils peuvent aussi l'accueillir dans un hôtel. Vous allez dans un hôtel, même de luxe, ils parlent pas forcément toutes les langues des usagers qui ont des clients.
Oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, ok, pas de souci.
Donc, on est vraiment pas sur de l'individuel. où là c'est Android et Apple qui fait ça très bien, mais véritablement sur du collectif et de des besoins. Et ça rentre aussi dans la loi handicap, qui est l'accessibilité de tout à tous. Mmh. Il y a le handicap, comme on peut l'imaginer, mais on peut aussi avoir le handicap de la langue,
oui,
qui est moins, enfin, qui est tout aussi connu, mais moins mis en valeur.
Bienvenue sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Pour éviter que les personnes handicapées soient victimes d'arnaques bancaires, Julien Delamorte a eu l'idée de créer une carte de paiement adaptée pour eux. Ça s'appelle Handsome. On a interviewé Julien Delamorte.
Handsome, c'est une fintech qui a pour vocation de rendre tous les produits et les services bancaires accessibles aux personnes en situation de handicap et aussi aux seniors. Et donc, on a commencé à travailler par une première typologie de handicap qui est la déficience visuelle, en créant une carte de paiement connectée qui est connectée au smartphone du porteur de la carte afin de rendre les paiements accessibles. Puisque 9 déficients visuels sur 10 ont déjà été victimes d'une fraude, arnaque ou erreur lors d'un paiement chez son commerçant. Et donc, nous, on a fait cette carte de paiement connectée pour que le déficient visuel puisse enfin entendre tout ce que nous, on peut lire sur le terminal de paiement électronique. Ainsi, dès qu'il insère la carte dans le TPE, ça se connecte automatiquement avec le smartphone et le smartphone va prendre le relais du TPE pour informer toutes les informations du montant de la transaction en cours, accepter, refuser, si le code PIN est bon ou faux.
Alors attendez, je comprends pas exactement comment ça marche. C'est un boîtier qu'on met sur son téléphone et qui est relié à la carte bleue. Je comprends pas. Expliquez-moi un petit peu.
Non, il n'y a pas de boîtier supplémentaire. C'est vraiment une carte de paiement innovante qui est connectée au smartphone. Et ça va permettre aussi à vous et moi, si par exemple on ne parle pas le mandarin, si on est en voyage en Chine, de pouvoir payer sur un TPE chinois et d'avoir toute la traduction en français sur son smartphone.
Vous nous donniez un chiffre de fraude qui est assez hallucinant pour les personnes handicapées, mais c'est quoi les types de fraudes dont ils sont victimes par rapport à leur carte bancaire ?
Le risque de fraude, il est lié à deux raisons. La première, c'est soit le commerçant fait surfacturer le paiement, en disant, au lieu que ça soit 15,90€ pour reprendre l'exemple de la boulangerie, il le fait payer 18, 19 ou 20,90€. La deuxième chose de risque de fraude, d'erreur ou d'arnaque, c'est que le commerçant lui fait dire que le paiement n'est pas passé alors qu'il est réellement passé et lui faire payer une deuxième fois, un autre montant ou le même montant.
Mais ça arrive souvent, ça, que des commerçants fassent ça ?
9 déficients visuels sur 10, on l'a déjà été victime à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi beaucoup, pour pas remettre non plus la faute sur tous les commerçants. Ça peut être lié aussi à des erreurs. Moi, non déficient visuel, j'ai déjà eu l'erreur dans un restaurant où on devait diviser la note par 4 et finalement, il fait payer la totalité de la note à chacun d'entre nous, en fait, sans qu'on regarde, en fait.
Alors, vous disiez que cette carte, elle sert pour les personnes handicapées, mais aussi les seniors, et c'est les mêmes services, c'est les mêmes paiements ou c'est différent ?
Non, pas du tout. C'est toujours dans la même typologie de paiement chez son commerçant. Pour que le senior, en fait, souvent, quand on devient senior, on a une déficience qui se perd. C'est-à-dire qu'on a soit une perte de l'audition, soit une perte de la vue, soit les deux en même temps, et ainsi de suite. Et c'est vraiment aussi qui est considéré comme une forme de handicap de façon moteur, dans le sens du moteur. Et donc, du coup, ça permet aussi aux seniors, alors pas les seniors en fin de vie, mais les débuts qui sont assez familiarisés avec la nouvelle technologie et les smartphones, de pouvoir maintenir leur autonomie le plus longtemps possible.
Mais du coup, comment ça marche ? Comment on l'a, cette carte ? Est-ce qu'il faut télécharger une application ?
Alors, soit on se connecte en effet sur l'Apple Store et on demande l'application Handsome de compte inclusif, soit on va sur la landing page de How to be Handsome, soit Crédit Agricole, qui est notre partenaire en Normandie-Seine, vous pouvez la demander au Crédit Agricole de Normandie-Seine dans un premier temps, et puis pourquoi pas plus tard, tout Crédit Agricole et d'autres établissements.
Et côté grille tarifaire de la carte bancaire, on est à quel montant à peu près ?
Ça sera les mêmes prix que ce que vous payez actuellement dans une banque. Savez-vous combien vous payez actuellement sur votre banque ?
Alors je dirais une trentaine d'euros par an, mais c'est peut-être plus en fait, comme c'est par mois distillé, je suis pas sûr.
En général, la moyenne des Français, ça tourne autour des 15,90€. Nous, on sera à 9,90€ pour les mêmes prestations. 14,90€ par mois, vous payez en moyenne. Alors il y en a qui vont payer 5,90€, d'autres qui vont payer 19,90€ en fonction de la Mastercard, mais si on prend une Visa premier, on dépasse largement les 12, 13, 14,90 par mois, et nous on sera à 9,90 par mois.
Je vous rappelle le nom de cette carte inclusive pour les personnes handicapées, mais aussi les seniors, Handsome. Donc soit vous pouvez la télécharger sur les Apple Store ou Play Store, soit sinon donc il y a le site internet qui s'appelle howtobehandsome.fr.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Avez-vous déjà eu envie de déménager en changeant totalement de région? Une envie pas si facile quand on a une famille, des contraintes et pas forcément d'emploi à la clé. C'est là qu'intervient la plateforme d'échange WixJob, qui veut dire We Exchange Job. L'idée, Marie qui travaille à Bordeaux pour échanger son travail avec Olivier qui travaille à Orléans, s'ils ont les mêmes compétences. On a interviewé Aïda et Marion qui ont créé WixJob.
Donc en fait, le principe de WixJob, hein, c'est de finalement s'occuper de la problématique des départs d'un salarié d'une entreprise. En fait, ce que nous on a voulu, c'est traiter ce point-là parce que on sait que c'est un point de douleur autant pour le salarié que pour l'entreprise. Et on a voulu donc être utile pour les deux parties et surtout aligner les intérêts des deux parties. Faire en sorte que tout le monde trouve un intérêt à ce que cette mobilité soit anticipée, organisée et qu'elle se passe qu'elle soit accompagnée dans de bonnes conditions en fait. Donc on a voulu dédramatiser les départs de salariés et les transformer en opportunités, créer un cadre de confiance et de transparence dans la relation entre l'employeur et le salarié pour un réel équilibre de chacun, et accompagner hein, quelque part le changement de société aussi qui implique une mobilité accrue des salariés avec des générations qui bougent beaucoup plus en fait que les générations plus âgées, et aussi des souhaits de accompagner les souhaits de déménagement ou les évolutions dans la vie personnelle des salariés.
Oui, mais concrètement, comment ça marche, Wix Job? Pourquoi les entreprises seraient satisfaites? C'est quoi le principe?
En fait, le principe pour nous, c'est de pouvoir donner accès aux salariés à des postes qu'ils ne verraient pas en temps normal, puisqu'en fait, tous les postes qui sont disponibles sur le marché, c'est des postes ouverts. Nous, ce qu'on fait, c'est que vous avez envie de bouger, vous allez sur la plateforme, vous n'avez pas encore démissionné et vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes peut-être déjà inscrite d'ailleurs sur d'autres sites classiques de recherche d'emploi. Là, ce que vous allez faire, vous allez vous inscrire et on va vous demander de remplir votre fiche de poste. Donc, vous allez dire, voilà le poste que j'occupe. Et puis, vous allez faire votre fiche de recherche, c'est-à-dire, voilà le poste que je recherche. Et il faut que ce soit effectivement les mêmes métiers, à peu de choses près en tout cas, les mêmes compétences qui soient recherchées. Et puis, vous allez inscrire, ben voilà, je recherche à Lyon. Je suis à Paris et je recherche à Lyon. Et du coup, là, c'est nous qui prenons le relais. Ça veut dire que vous allez être en attente et puis la plateforme, elle va jouer et faire son rôle. On a créé un algorithme qui va identifier les profils qui correspondent à ce que vous recherchez en vue d'un échange. Si jamais, en fait, on trouve une relation d'échange qui vous convient, qui convient à vous autant qu'à l'autre salarié, et ça peut être une ou plusieurs relations d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez avoir plusieurs choix, c'est ce qu'on espère en tout cas, à ce moment-là, c'est là que l'entreprise va devoir rentrer en ligne de compte, en fait. C'est là qu'on va contacter, soit vous nous mandatez pour contacter votre entreprise, soit vous faites la démarche vous-même, vous allez l'avoir et vous dites, ben voilà, moi je m'en vais, j'ai besoin de partir parce que pour raison personnelle, j'ai besoin de partir, mais je ne veux pas vous laisser dans la panade, je sais que c'est compliqué de me remplacer, donc je me suis inscrite sur cette plateforme où on va vous proposer des profils qui correspondent à mon poste, au poste que j'occupe, et si ça vous intéresse, si vous souhaitez ouvrir le poste, parce qu'en fait l'entreprise peut très bien dire, ben non, moi le poste, je vais le fermer, ou alors je sais déjà qui je vais y mettre. Si elle accepte, à ce moment-là, on va créer une vraie relation d'échange. Les parties rentrent toutes en ligne de compte. Et puis, elles vont recevoir les CV des personnes que vous avez rencontrées, avec lesquelles vous vous êtes mis en relation. Et puis, c'est là qu'elles vont les faire passer leur propre processus de recrutement classique. Donc, ça veut dire que tout le monde a la main. Vous pouvez dire « ça ne m'intéresse pas, finalement, j'y vais pas ». L'anonymat n'est levé que quand vous l'avez décidé. C'est-à-dire quand vous êtes prêt à aller plus loin. Tant que vous n'êtes pas prêt à aller plus loin, il ne se passe rien. De toute façon, c'est totalement gratuit pour le salarié. C'est anonyme jusqu'à ce que, effectivement, les entreprises rentrent en ligne de compte. Ça, c'est normal. Parce qu'il faut bien un moment ou un autre que les CV circulent. Sinon, il n'y a pas d'échange.
Ouais, compléter. Vraiment, au début, c'est complètement anonyme pour le salarié. Hein, quand il remplit sa fiche de poste, sa fiche de recherche, on a fait en sorte qu'aucune information ne puisse être transmise.
Même pour nous, d'ailleurs.
Hein. Même vis-à-vis de nous. Voilà. Donc, on a vraiment voulu que le salarié se sente complètement libre et c'est anonyme et c'est gratuit pour lui, juste comme dit Aïda, au moment où, à ce moment-là, où c'est le salarié qui décide de lever son anonymat à un moment donné. Donc, voilà, c'est toujours lui qui a la main sur ça.
Et pour l'entreprise, ça n'est payant, donc c'est une commission qu'elle ne verse, mais qu'elle ne verse que si ça fonctionne, donc si elle ne recrute pas. Donc, il n'y a vraiment pas de frein à ce niveau-là, ni pour les uns, ni pour les autres.
En fait, vous êtes un peu comme un cabinet de recrutement qui aiderait les particuliers à échanger de travail et qui proposerait des profils aux entreprises.
C'est un peu ça, effectivement. On ne fait pas vraiment le même travail que le cabinet de recrutement. C'est pour ça aussi qu'on ne voulait pas être sur des montants faramineux. Notre objectif, c'est vraiment d'être ouvert à tout le monde, les petites, les moyennes, les grandes entreprises. On voulait à un moment que ni les problématiques d'anonymat, ni les problématiques de coûts ne soit un frein pour qui que ce soit. On est vraiment dans une notion un peu naïve peut-être, mais de changement de société sur le regard, sur la mobilité et le départ des salariés.
Et elle coûte combien exactement cette commission du coup?
Elle est, alors pour les moyennes, les grandes, elle est de 2000 euros. Sauf s'ils décident de s'abonner à la plateforme où là, ils ont un abattement de 30%. Et puis pour les TPE, c'est un tarif qu'on n'a pas encore discuté, mais ce sera un tarif inférieur à ça.
Et alors, j'ai cru comprendre que même si la plateforme n'est pas bien vieille, je crois qu'elle a 1 ou 2 ans, par contre, vous, Aïda et Marion, vous vous connaissez depuis très très longtemps.
Oui.
Oui, alors ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on se connaît très bien. En fait, l'idée, elle m'est venue un peu par hasard, hein, sur le quai d'un RER, lorsque j'habite dans une banlieue parisienne et je travaillais à l'autre bout de Paris, dans une autre banlieue, et dans le domaine de la comptabilité. Voilà. Et donc, c'est sur le cas du RER, tout simplement. Donc, je vois les RER qui passent devant moi parce qu'on peut pas monter dedans, ils sont blindés. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde dans l'autre sens? Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a bien une personne qui fait le même métier que moi et finalement qui fait le trajet inverse. Et je me suis dit, mais si j'étais au courant que cette personne existait, si elle était au courant que j'existais, finalement, ce serait tellement plus simple si on pouvait échanger nos jobs. Et on n'aurait plus à subir en fait ces trajets qui sont quand même particulièrement pénibles. Après, c'est vrai qu'on a eu aussi, donc bon, ça c'est la première idée qui a germé dans l'esprit. On en a discuté pas mal avec Aïda à cette époque-là. Après, on a évolué dans notre carrière professionnelle. On a été manager et c'est là qu'on a vécu aussi de l'autre côté, le côté gestion d'une équipe, les départs et en fait. Voilà, pour nous, un départ non anticipé, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, les départs sont pas anticipés, ils sont un peu, ils sont subis exactement. Un départ non anticipé, ça génère du stress dans les équipes, une surcharge de travail, du temps de recrutement, des coûts aussi pour les entreprises. Et on s'est dit, mais en fait, on peut trouver une façon pour que l'entreprise puisse quelque part anticiper ses départs. Ça lui permet aussi de renforcer, ça qui est important, sa démarche RSE, avec un levier pour réduire son impact environnemental, notamment sur les temps de trajet de ses collaborateurs, mais également sur les risques psychosociaux, parce qu'une personne qui est pas bien dans son poste et qui a envie de bouger, mais qui sait pas trop comment s'y prendre, c'est compliqué. Ça lui permet de valoriser sa marque employeur, et notamment pour, je pense beaucoup aux PME qui ont des difficultés à recruter en France, et souvent ça pénalise leur croissance. Donc là, ce qui est intéressant pour elles, c'est de dire, même vis-à-vis de l'extérieur, de dire, nous on est ouvert à la mobilité, donc on va vous offrir des perspectives de carrière grâce à WeJob, à travers en fait cet engagement qu'on montre en nous abonnant par exemple à WeJob, avec une charte qui est respectée par les deux parties, d'ailleurs les salariés et les entreprises. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un peu la genèse en fait de WeJob. Et puis bien sûr, c'est une histoire d'amitié avec Aïda. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'on travaille sur le concept, qu'on développe l'outil. C'est vrai que c'est récent la mise en ligne, mais c'est beaucoup beaucoup de travail en amont.
Mais en fait, ce qu'on a voulu aussi créer au niveau de WeJob, c'est un espace pour que les entreprises puissent constituer des réseaux entre elles. Toutes les entreprises abonnées, elles peuvent décider de rentrer en relation avec une ou plusieurs entreprises abonnées. Et en fait, on a créé un espace pour des petites annonces, pour favoriser l'entraide entre entreprises. On s'est dit que notamment, à l'époque, on parlait beaucoup de PME, mais finalement, il y a un peu toutes les entreprises, mais tout ce qui est PME, TPE, elles ont souvent aussi des difficultés dans leur activité au quotidien. Et si elles pouvaient rentrer en relation de manière aisée avec d'autres, elles pourraient, partager des frais de formation ou sous-louer des salles des besoins de compétences spécifiques, pas nécessairement uniquement sur les aspects RH. Et donc ça, c'est un espace vraiment spécifique aussi sur WeJob et qui est accessible pour le coup là par abonnement.
Je vous rappelle le nom du site wixjob.com, ça s'écrit WeXJob.
Je suis heureuse de vous faire découvrir toutes ces interviews, ces reportages en version longue sur 8FM. Et c'est loin d'être fini. Écoutez,
les réseaux sociaux ne sont toujours pas bienveillants, notamment pour les plus jeunes. C'est face à cette problématique qu'on avait interviewé en 2001 Guillaume Villain, fondateur de Kiligi. Ça s'écrit K-I-L-I-G-I, une application sociale pour faire du bien à nos émotions.
Donc j'ai commencé le projet, c'était en fin avril. L'application, on a sorti vraiment un MVP hyper basique pour voir en fait si les jeunes jouaient le jeu de partager leurs émotions, parce que c'est quand même une thématique un peu touchy, et donc on avait un peu peur par rapport aux interviews qu'on avait recueillies. En fait, on a eu 500 questionnaires en début juin, où ils disaient 90% on va partager nos émotions, il n'y a pas de souci, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a toujours un décalage, et donc on avait un peu peur. Et finalement, en fait, il n'y avait pas de décalage. Donc, en tout cas, les 15-20, ils n'ont aucun souci à partager. Au plus on va monter dans les âges, au plus on va tomber en fait sur des posts en mode anonyme, parce qu'ils n'ont pas envie d'être connus, parce que le sujet est un peu tendu. Donc là, ils ont plutôt tendance à partir sur le mode anonyme.
Alors, expliquez-moi du coup, qu'est-ce que Kiligi?
Ouais, en fait, ça, si on lit en français, ça ferait Kiligi, mais ça vient de Kilig, c'est un mot des Philippines qui fait en fait, c'est les papillons dans le ventre qu'on a en fait si on tombe amoureux la première fois qu'on voit la Tour Eiffel. Voilà, donc on voulait une marque aussi qui soit émotionnelle. Comment on a démarré ce projet-là? L'idée, c'était vraiment donc d'offrir en fait une plateforme qui donne du soutien aux jeunes et une safe place en fait où ils peuvent vraiment partager sans être jugés, parce que c'est ce qui est un peu problématique sur les réseaux sociaux actuels avec tous les haters, le harcèlement et j'en passe. Donc on a commencé sous cet axe-là. Moi en fait je suis aussi papa de deux ados, donc de Ninon qui a 16 et Tom qui a 14, qui revenait avec des histoires un peu inquiétantes, des transports en commun, des amis de la classe. Puis j'ai fait aussi 20 années dans l'enseignement, donc j'ai aussi un peu le suivi en fait de ce qui se passait déjà dans les classes et dans la tête des jeunes. Et puis voilà, donc en avril en fait j'ai attaqué le sujet en me disant bon ben on voit des stats passer dans les médias, qu'en est-il réellement? Donc j'ai un peu refouillé ces stats, et en fait avant la crise sanitaire on avait un adolescent sur quatre qui était en situation de mal-être, c'est les stats de l'OMS, et ça c'était avant la pandémie. Sauf qu'en fait là, elle a fait exploser tous les chiffres, et donc on est tombé sur les centres de psychiatrie qui étaient en saturation, les centres de type de suicide qui ont augmenté, qui ont été multipliés presque par deux, et ça touchait principalement les filles en fait, plus que les garçons. Elles étaient réellement impactées par rapport à ça. Et donc on a fouillé les solutions existantes, ben voilà, les lignes d'écoute. Et on a un peu aussi regardé les freins. Et en fait, les lignes d'écoute, pour avoir discuté avec des parents endeuillés, donc vraiment, j'ai discuté avec trois parents qui ont perdu leur fille, en fait, suite à un suicide, et ils me disaient, en fait, ils n'en parlaient pas aux autres adultes, ils n'ont pas sonné aux lignes d'écoute, ils n'ont pas non plus été dans une asso parce que ils avaient peur de mentir par rapport à l'âge. Donc on a regardé à chaque fois, en fait, qu'est-ce qui existe et quels étaient les freins. Les lignes, c'est la timidité, parce que ils n'osent pas parler, en fait, en direct. Les forums d'entraide, c'est des outils un peu vieillissants, et donc il y a un problème d'instantanéité parce que en fait c'est modéré, mais du coup en fait ils vont avoir une réponse dans les 48 heures. Pour les jeunes c'est juste beaucoup trop, enfin, voilà, ils sont assez pressés. Les assos, ils doivent mentir, soit aller après les cours ou pendant les cours, et donc c'est un peu problématique pour eux, sauf s'ils vont voir l'infirmière de l'école ou des choses comme ça, ou pour les UNIF, pareil, il y a des services, mais ils vont pas forcément. Et les pros de la santé mentale, là, c'est un problème de coût, ou alors un problème d'avancée en fait mentale par rapport à la santé mentale. Et donc, il y a certains parents qui se disent, mon enfant va pas aller chez un psy, c'est pour les fous, etc. Et donc là, c'est plutôt de l'éducation à la santé mentale qu'il faudrait faire. Donc, en regroupant en fait toutes ces infos, que ce soit des stats ou des solutions existantes, on se dit, il faut faire quelque chose qui va être dans leur code, et leur code, c'est les réseaux sociaux.
Et du coup, comment ça fonctionne exactement, Kiligi?
Comment ça fonctionne? Donc, c'est assez simple. En fait, on crée un post en disant comment je me sens globalement. Donc, on vient mettre l'humeur en mode météo. Ensuite, on vient donner son émotion précise ou un état d'âme et un sentiment. Donc, il y a toute une liste. Ils peuvent choisir si je suis joyeux ou si je suis dévasté. Et ensuite, en fait, on sélectionne son besoin. Donc, l'idée, c'était vraiment, et ça, c'est ce qui a été validé par les pros de la santé mentale avant le développement, c'était de faire quelque chose qui fasse du bien. Et donc, là, ils choisissent leur besoin, de quoi j'ai besoin pour aller mieux, si c'est de discuter, d'écouter de la musique, de me rappeler, de structurer mes idées, ainsi de suite. Puis, ils vont sélectionner la thématique sur laquelle ils sont en train de parler. Donc, si c'est l'école, le travail, la sexualité, les vacances par exemple, et puis ils font une petite phrase pour expliquer leur situation. Ils sélectionnent à qui ils vont partager, donc soit on va partager en mode public, soit on va partager à sa tribu, donc ce sera plutôt ses amis réels ou les amis qu'on s'est fait via la plateforme, ou soit on partage en intime, donc c'est juste pour soi, c'est vraiment en mode journal intime. Et on a aussi la partie incognito, donc là c'est plutôt sur les thématiques tendues. Et donc, si vous voulez, on a un switch entre notre compte avec le nom-prénom, et le compte, en fait, est dédoublé avec un pseudo, ce qui permet, par exemple, d'avoir ses amis et de parler de thématiques légères en disant, j'ai réussi mon permis de conduire, ou j'ai raté tel examen. Mais si je me suis disputé six fois avec ma petite copine, je vais pas forcément tout le temps raconter ma vie. J'ai pas forcément envie de la raconter ma vie. Et donc là, je vais passer en mode anonyme, et là, c'est le pseudo qui sera poussé, et donc la communauté
va pouvoir aider, donner, apporter du soutien, des félicitations, des encouragements, des conseils, ça dépend selon la situation.
Et actuellement, il y a combien d'utilisateurs du coup ?
Là, en fait, on vient de passer, je crois que c'était le 2 ou 3 janvier, on vient de passer les 10 000 installations. Au niveau poste, ça varie, ça dépend en fait un peu les jours. Mais voilà, on fait entre 200 et 1000 posts par jour, quelque chose comme ça. Et au niveau commentaires, c'est presque x7, x8. Donc ça veut dire qu'il y a une moyenne de 7 commentaires par poste.
Et du coup, c'est France et Belgique, c'est ça ?
Oui, on a France, Belgique, Canada. Et puis après, c'est, en fait, on a vraiment mondial le francophone. Mais c'est vraiment la France qui a le plus gros pourcentage pour l'instant. Bah parce que le bouche-à-oreille fonctionne mieux sur la France pour l'instant, et la presse aussi. On a eu un peu de presse aussi en Belgique. Ici, on commence en fait la presse côté France.
Je vous rappelle le nom de ce réseau social bienveillant, particulièrement pour les jeunes, Kiligi, qui s'écrit K-I-L-I-G-I.
Vous êtes au cœur de la nuit, et on se retrouve demain sur 8FM pour passer un moment ensemble. À demain. FM.
On m'a dit ceux qui auront peuvent changer les choses et un jour tout gagner. Il n'y a que ceux qui croient qu'un jour ça arrivera, qui le voient arriver. Allez, viens, on avance, on laisse là ceux qui pensent tout savoir, tout connaître. Allez, viens, on s'en va. Viens, le monde est à nous. Viens, le monde est à nous. On va vivre chaque jour, on va vivre notre amour comme si c'était le dernier. Chaque seconde de chaque heure, on prendra tout le bonheur et jamais à moitié. Allez, viens, on se taille, le cœur vaille que vaille, on poursuivra
l'été. Allez viens on s'en va, on trouvera un endroit où encore s'en aller. Viens le monde est à nous. Mais me lâche pas la main, car le monde ça vaut rien sans toi dans mes parages. On ira n'importe où, mais l'important c'est nous, c'est pas les paysages. Oui, la vie est à nous.